Salut et bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Autour de la table aujourd'hui, Christophe Buron et Didier Croix. Messieurs, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour à tous, bonjour Manu.
Alors l'ASM s'est incliné face à Toulouse ce dimanche, défaite 37-33. Après ce troisième revers de la saison à domicile, les Clermontois ont-ils dit adieu au top 6? C'est la question que nous allons nous poser dans cette émission. Nous nous intéresserons également au prochain match des Auvergnats. Ce sera dimanche prochain à La Rochelle. Avec quelle équipe les Clermontois doivent-ils se déplacer à De Flandre? Et enfin, nous terminerons avec les traditionnels top et flop. Mais revenons à la question principale de ce podcast. L'ASM a-t-elle dit adieu au top 6 après cette troisième défaite concédée à domicile cette saison? Un petit tour de table rapide, Christophe.
Très 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 compliqué.
Didier.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est un espoir qui est de plus en plus mince.
Alors, on va faire un petit rappel de cette partie. Donc, Clermont qui s'est incliné 37-33 face, on va dire, à la classe biberon de Toulouse, qui a aligné une équipe largement remaniée au Michelin. Les Clermontois qui ont été réduits à 14 après le carton rouge de Jovan à la 11e minute sont passés tout proches d'une incroyable remontée. Mais à l'arrivée, ça fait une troisième défaite, on l'a dit, de la saison à domicile, mais qui ne fait pas les affaires des Clermontois, Christophe.
Et comme a dit Christophe Furios, qui prouve bien un peu son état d'esprit au lendemain de cette défaite, c'est qu'il n'a pas souvenir, enfin, où il imagine mal une qualification avec une équipe qui est perdue trois fois déjà chez elle. Alors, je ne vais pas y arrêter de revoir dans les archives, mais probablement que c'est peut-être jamais arrivé. Donc, ça prouve la complexité maintenant des ambitions maintenant de l'ASM sur cette fin de saison.
Didier, il y avait eu ce revers face à Toulon, face à une équipe de Toulon remaniée, une défaite face à Bordeaux-Bègles fin décembre, une équipe là encore remaniée. Il y a ce revers face, on va dire, à l'équipe C du Stade Toulousain. Ça fait beaucoup de défaites et surtout, en plus, face à des équipes, à chaque fois, c'était pas les équipes types en face. Alors qu'à contrario, Clermont alignait clairement son équipe type dimanche.
Exactement, c'est un peu le paradoxe de ces trois défaites à domicile, c'est que chaque fois, ces équipes étaient venues avec en ayant fait par choix ou par obligation beaucoup de changements par rapport à ce qui est censé être leur équipe type, que ce soit Toulon, que ce soit Toulousière ou l'UBB, ça m'échappait la dernière fois, enfin juste avant la fin de l'année, et à chaque fois donc clairement c'est pris dans les pieds dans le tapis face à ces équipes là en présentant elles paradoxalement ce qui est actuellement, notamment hier, la meilleure équipe possible. Donc est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Est-ce qu'il faut y voir une tendance? C'est quand même assez surprenant.
Ça donne raison quelque part à Christophe Furios sur un point, quand il explique que dans ses réussites passées, l'état d'esprit comptait plus que peut-être la qualité intrinsèque de l'effectif. C'est la preuve que même avec peut-être pas les meilleurs joueurs de leur effectif, de leur groupe, ces trois adversaires qui sont venus gagner au Michelin, ont su compenser par un état d'esprit, par un engagement, par un enthousiasme, qui est révélateur, quoi, qui prouve qu'on peut faire pas des miracles, mais de belles choses, même si vous n'avez pas vos meilleurs joueurs. Et puis, pour avoir entendu un petit peu les jeunes Toulousains après le match, ils venaient sans pression, on leur avait pas demandé de gagner ce match, on leur avait dit de faire la guerre dans tous les rugs, d'être très 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 bon en défense, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis qu'en plus, vous avez affaire à des joueurs qui sont élevés à un style de jeu qui est de jouer debout en avançant avec de la vitesse, et voilà ce que ça donne. Et l'ASM aujourd'hui n'est pas en capacité de contrer ça. Et elle, comme l'a dit Didier, avec ses meilleurs joueurs.
Tu parlais de pression, Christophe. Justement, est-ce que on peut mettre, il y a eu beaucoup d'erreurs, encore une fois, enfin, que ce soit défensivement, des erreurs qui ont coûté cher à l'arrivée. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la pression, justement, des Clermontois qui ont déjà connu deux revers à la maison, qui n'ont plus le droit à l'erreur maintenant, à chaque fois qu'ils foulent la pelouse du Stade Michelin? Est-ce que ça peut s'expliquer par cette pression?
La pression, je pense pas, parce que, enfin, ça dépend sur certains. Le coup de pied, par exemple, du Urdapi, il est incompréhensible, cette pénalité qu'ils ont au milieu du terrain, mais qu'ils dévissent complètement. Alors, est-ce que c'est de la précipitation, de la pression, je sais pas. Mais il y a des fautes en défense et des fautes techniques. Bon, on va parler d'un joueur qui s'appelle Raka, qui a des attitudes, c'est pas de la pression. C'est un manque de maîtrise, un manque de technique, un manque de, je sais pas, de concentration, mais c'est pas possible de défendre à ce niveau-là. Et là, c'est pas un problème de pression.
Et surtout qu'en plus,
mental,
les semaines se suivent et se ressemblent pour lui. On parlait déjà de sa défense, plus que laxiste la semaine dernière face à Thiberguien. Là, deux fois, je dis deux fois parce que j'ai deux actions en tête, mais sur les deux essais de Retière, justement, le plus flagrant, c'est le premier essai. Il plaque même pas, enfin.
C'est un problème qui est malheureusement, alors même s'il y a eu un semblant d'amélioration ces dernières semaines, mais qui était pas flagrant quand même, hein. Et depuis le début de la saison, Clermont souffre défensivement, collectivement, et avec en plus, comme on disait Christophe, des lacunes individuelles rédhibitoires à certains moments du match, quoi. Donc, et ça, c'est depuis le début de la saison qu'on constate que, d'ailleurs, jamais, une seule fois depuis le début de la saison, à Tbilissi, Clermont n'a fini un match sans encaisser d'essai. Ce qui est à ce moment-là de la saison, après 16 matchs de championnat et 4 de Challenge Cup, ce qui est révélateur quand même de quelque chose, quoi. Donc, et elle en prend aussi beaucoup, beaucoup à domicile, ce qui est aussi quelque part révélateur de certaines lacunes, mine de rien. Donc,
Christophe Furios, en conférence d'après-match, disait que cette défaite face à Toulouse lui rappelait le revers face à Bordeaux. Tu en parlais tout à l'heure, c'était le 29 décembre dernier, défaite 35 à 40. Les semaines passent, les problèmes restent. Justement, est-ce que cette équipe progresse ?
Elle progresse. Le mois de janvier et le début février avaient laissé penser qu'il y avait un petit cap qui était franchi. Il y avait eu des résultats plutôt probants. Depuis le 1er janvier, ils étaient passés d'une moyenne de 26 points encaissés à 16. C'est un progrès qui est notable, quoi, enfin qui est vraiment intéressant. Sauf que hier, ils en ont pris 37, quoi. Donc là, la bascule s'est refaite dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils sont à nouveau dans le creux et que, oui, elle progresse par intermittence, mais elle retombe dans ses travers.
Et puis alors, on parlait des erreurs en défense. Il y a eu ces en avant qui ont coûté cher sur la fin de match, en avant de Rosière, en avant de Yato. Et puis, à cette indiscipline, on est obligé de revenir sur ce carton rouge qui, forcément, à l'arrivée, pèse. Même s'il n'explique pas tout dans ce match, on ne peut pas passer 70 minutes à 14. Alors, on finit par payer, au bout d'un moment, les efforts.
Sur l'indiscipline, je serais un peu plus mesuré parce que, clairement, on a statistiquement n'est pas une équipe qui est très pénalisée, hein. C'est son premier carton rouge de la saison. En termes de carton jaune, ils sont très bien placés. Donc,
dans
ce secteur-là, ils sont relativement bien placés et ils n'ont pas de leçons à recevoir. Enfin, c'est pas là où le bât blesse, hein. Franchement, un carton rouge après 16 journées, bon. Ça peut arriver. Quoi.
Je parlais des pénalités concédées là par moment. Enfin hier, notamment, je pense sur la fin de la première mi-temps, qui ont permis à Toulouse
des fautes grossières, voilà. Effectivement, individuelles, techniques, comme disait Christophe, qui ont coûté cher. Oui, effectivement. Oui, tout à fait.
Quel levier peut activer Christophe Furios justement là pour
C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que même lui. Il soit en état aujourd'hui d'identifier totalement des leviers qui peuvent être positifs. Hein. Enfin. Si, ils vont se resserrer sur l'état d'esprit, sur le collectif. Il n'y a que ça, parce que bon, on l'a déjà dit maintes fois, mais bon, cet effectif, il a ses qualités, il a ses défauts. On sait que ça manque de profondeur, on l'a déjà dit plein de fois. Et il n'y a pas de choix, quoi. Il faut avancer avec. Et avec, on en parlera peut-être plus tard, mais avec cette contrainte terrible du nombre de gifles.
Oui, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. On va revenir du coup au thème principal, hein, parce que là, c'est vrai qu'on est revenu sur cette partie. Donc, Clermont, qui avait l'occasion, en cas de victoire bonifiée, de revenir à hauteur de Pau et du Racing, respectivement 5e et 6e. Avec ce bonus défensif, Clermont est 8e, à 4 points du top 6. Et compte 5 longueurs d'avance sur Perpignan. Est-ce que l'ASM doit regarder dans le rétroviseur, messieurs ?
Ouais, ça dépend, ça, d'un week-end à l'autre, on peut dire l'inverse, quoi. Enfin, je veux dire, il suffit qu'ils gagnent, on va dire, ils pourront regarder vers le haut. Et après La Rochelle, s'ils perdent à La Rochelle, ça en fera 3 d'affilée, on va dire, oui, il vaut mieux regarder derrière. Ce qui est bizarre dans ce top 14, enfin bizarre, c'est indécis, c'est extrêmement serré. Je pense que seul Oyonnax maintenant a un peu lâché, parce qu'il commence à avoir du retard sur l'avant-dernier. Mais c'est vrai que Perpignan, qui est 13e, oui, il n'est pas loin derrière, en effet.
Et puis bon,
il est 12e, parce que c'est Montpellier qui est 14e. Mais Montpellier, on peut les mettre peut-être un petit peu à part.
Mais Montpellier, aujourd'hui, on peut se demander s'ils ne sont pas en état d'aller chercher le top 6 aussi. Hein. Il n'est pas si loin que ça. Et avec leur dynamique du moment, s'ils se mettent à tout gagner, ça peut aussi.
Il y a le phénomène
Aller
des
vite.
doublés en scie qui change un peu la donne aussi, hein. Sauf pour Toulouse qui sort comme souvent sans trop de dégâts de ces périodes. Mais bon, des équipes comme Bordeaux ou le Stade ou le Racing par exemple connaissent
Un gros trou d'air, hein.
un trou d'air et un passage à vide terrible, quoi. Donc, il y a des équipes qui vont gagner contre Bordeaux ou contre le Racing qui n'étaient pas censées le faire, quoi. Donc là, effectivement, ça change aussi la donne, sauf pour Toulouse qui gagne,
Parce que c'est vrai.
quel que soit l'effectif, quelle que soit l'équipe alignée.
Quand on voit le classement aujourd'hui, l'ASM, certes, n'est qu'à 4 points de ce fameux top 6, mais ce qui pose problème, ce sont ces 3 défaites à domicile, en fait, aujourd'hui.
Oui, puis bah, maintenant on connaît le calendrier, hein, il reste 10 matchs. Bon, par contre, bon, c'est 5 matchs à la maison, 5 matchs à l'extérieur. Bon, évidemment qu'il ne faudrait plus prendre de défaites ici, au Michelin. Et il faudra aller chercher, à mon avis, au moins 2 victoires extérieures. Donc on voit bien l'ampleur de la tâche qu'attend l'équipe de Urios, quoi.
Alors pourquoi pas une victoire du côté de La Rochelle.
La
Ce sera
Rochelle.
dimanche prochain. On va enchaîner avec le deuxième thème de ce podcast, déplacement à Marcel de Flandre. Ce sera dimanche soir à 21h05. Alors messieurs, avec quelle équipe tu as commencé d'évoquer les gifs, on y reviendra dans une petite seconde, mais déjà après ce match face à Toulouse, Ojovan sera suspendu suite au carton rouge qu'il a reçu ce dimanche. Il y a également Fouissac qui est sorti blessé. Il y a eu la blessure de Fourcade lors de l'échauffement. Pourra-t-il tenir sa place? Pour l'instant, on n'a pas d'informations complémentaires à ce sujet. Mais pour revenir au carton rouge d'Ojovan, la situation au poste de pilier droit va devenir problématique et Christophe Furios n'a pas 50 000 solutions qui s'offrent à lui, là, Didier.
On sait que depuis le début de la saison, à ce poste-là, clairement, a évolué sur le fil de rasoir. Hein. Bon, avec Ojovan et Slimani, on est clairement à deux titulaires, enfin, qui tiennent la route, mais dès qu'il y en a un qui est absent, la relève est compliquée, quoi. Donc, Quito a été essayé plusieurs fois, mais sa tenue en mêlée n'est pas. Il n'a pas le niveau requis en top 14 pour en mêlée fermée. Hein. Et il y a le jeune Zamalashvili qui lui est plus performant en mêlée, qui a l'inconvénient de ne pas être gif. Pas encore.
Oui.
Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est un poste où il y a un gros problème. Hein. Ça, c'est la conséquence des recrutements ratés de ces 2 dernières saisons avec la Clayat qui était passée sous le nez de Clermont, bah, qui avait dit oui et puis que Huguenin n'avait pas libéré finalement. Et puis l'affaire Aouas la saison dernière. Donc là, Clermont paye cher ces deux couacs dont elle n'est pas complètement responsable, mais bon, c'est sûr que c'est un poste qui est sensible.
On va évoquer les gifs. Christophe, Clermont est en retard. On rappelle, hein, la règle, les clubs doivent aligner en moyenne 16 gifs, donc gifs joueurs issus de la filière de formation par match. Clermont est en dessous de ce seuil aujourd'hui. On rappelle le règlement. Les clubs qui n'aligneront pas, qui ne respecteront pas cette moyenne de 16 gifs, écoperont de 6 points de pénalité pour la saison prochaine. Forcément, ça va influer dans les choix de Christophe Furios. Peut-être dès ce dimanche à La Rochelle, il va falloir que le staff Clermontois aligne des gifles.
Alors, je pense que dans les plans initiaux avant ce match contre Toulouse, était d'envoyer en effet une équipe à très forte connotation gif à La Rochelle. Est-ce que cette défaite va modifier ces plans? Ça, la semaine le dira. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais oui, l'ASM a encore perdu 2 unités, si on peut dire, a baissé encore sa moyenne contre Toulouse. Ils étaient que 14 gifles sur les 23, alors qu'en face, ils étaient 20 pour. Par
Toulouse
exemple,
qui est premier, hein, d'ailleurs, au
qui est
niveau
premier,
de.
qui aligne exactement 21 gifs depuis le début de saison. Alors, autant vous dire qu'ils ont de l'avance sur
Non
tout le monde.
seulement, ils vont pas perdre de points, mais ils vont gagner des sous en plus.
En plus, il y a une prime méritocratie par rapport aux gifs avec une caisse spéciale qui permet au club d'engranger un peu d'argent.
C'est ça, c'est 220 000 euros si la moyenne est de 17 gifs pile, et la somme ensuite est progressive pour atteindre 320 000 euros pour 19 gifs et plus. Voilà, ce qui
Ça,
est
ça paye.
un pécule non négligeable.
Ça peut payer un bon petit joueur. Donc l'ASM est en retard. Tu as 15,81 de moyenne. Elle peut remonter cette moyenne en 2-3 matchs, mais ça sera juste au-dessus de 16 et ça restera une épée de Damoclès terrible au-dessus de la tête du Reims, quoi. Parce que On ne sait jamais comment peut tourner une fin de saison, les dernières semaines, les derniers mois, avec des blessures de joueurs issus des filières, et qui pourraient le contraindre à faire jouer encore plus de joueurs non-JFR. Hein, ça serait une cata, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est quand même un souci de préoccupation qui est au quotidien dans ce club.
Et en
Et
sachant
qui
que
est...
même en alignant une équipe type comme ce fut le cas dimanche, donc avec plusieurs joueurs non GIF, même là le résultat n'est pas au rendez-vous en plus.
Oui,
Enfin,
tout à
après, bon, ça
fait.
fait partie du sport, hein, c'est.
Et ben, il le dit à chaque fois, hein, que c'est une des contraintes qu'il a quand il fait sa composition de groupe. Hein. Un joueur comme Sovacula ne joue pas parce qu'il n'est pas GIF. Hein, il n'est jamais sur le banc parce que bon, c'est lui qui est titulaire. Et sur le banc, il faut des GIFs, des GIFs, des GIFs. Et donc lui, il n'étant pas GIF, et ben, pour l'instant, il est venu sans. Il ne joue quasiment pas. Hein. À Bayonne, la semaine dernière, il a aligné une équipe qui était où l'influence du nombre de GIFs a été considérable. Hein. Mettre les deux talonneurs, Beregaray et le jeune Kouli, sur le banc, c'était lié à une contingence GIF. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. Donc, bon, c'est sûr que ça a des conséquences. Hein.
Et Christophe Furios ne cache pas non plus que ses meilleurs joueurs sont aujourd'hui des joueurs non-GIF. Donc, s'il veut gagner des matchs, il est obligé d'aligner des non-GIF.
Est-ce
C'est
que
plus FD.
selon vous, l'ASM doit essayer d'aller chercher cette victoire à l'extérieur immédiatement pour se reprendre et
Alors,
essayer d'effacer ce revers contre Toulouse là?
c'est qu'un titre personnel, mais à mon avis, non, parce que derrière, il va y avoir deux réceptions, Pau et Oyonnax, et c'est là qu'il faudra faire aligner sa meilleure équipe, et comme je viens de le dire, sa meilleure équipe, elle est constituée de beaucoup de non-gifs. Donc malheureusement, j'aime pas employer le mot d'impasse, mais ouais, ce match à La Rochelle.
C'est un peu dommage parce que bon, c'est une équipe de La Rochelle qui est actuellement bonne à prendre, hein,
Qui a la pression au pied du
qui a
mur.
la pression, qui est en manque de résultats, qui est en manque de ses internationaux. Donc c'est pas rien non plus. Hein, quand t'es à Aldrit, quand il n'y a pas Aldrit, quand il n'y a pas Antonio, quand il n'y a pas
Boudéan également sera présent.
Boudéan, bon, ça fait quand même une équipe qui est sérieusement handicapée, enfin diminuée du moins. Donc c'était sûrement une équipe qui était bonne à prendre, mais comme l'était le Stade Toulousain
Oui,
dimanche, hier, pardon.
juste oui, un petit chiffre, hein, tu en parlais Didier, du Stade Rochelais, une seule victoire lors des 4 derniers matchs, c'était face à Montpellier, victoire à domicile 18 à 10, sinon il y a eu cette défaite ce week-end à Perpignan, 27-15, juste avant il y avait eu ce revers à Lyon 28 à 17, et avant le succès face à Montpellier, les Rochelais s'étaient inclinés du côté de Toulon 25 à 23, une victoire en 4 matchs, mais il y a eu 3 déplacements sur ces rencontres. Dernier point avant de basculer sur les tops et flops, on va revenir à l'actualité moins réjouissante de ce week-end. C'est que l'ASM va préparer ce déplacement à La Rochelle dans des conditions un petit peu particulières, puisqu'on rappelle, il y a un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au sein du centre d'entraînement des Clermontois, qui est inutilisable. Donc du coup, ça va obliger les Clermontois à s'adapter. Est-ce qu'on a des infos justement sur le programme et ce qu'attend les Auvergnats cette semaine?
Bah, ça a été acté ce matin, en effet, par une réunion de crise. Donc, ils vont se partager entre le centre de formation partagé, c'est le cas de le dire, au Gravenche, où ils vont passer les matinées essentiellement.
Une formation partagée à SM Clermont Foot.
À SMK, Clermont Foot, en effet. Où ils vont, toutes les séances physiques, musculation, auront lieu là-bas. Mais tout ce qui est rugby, séance collective ou par atelier sur le terrain, auront lieu les après-midi, ou sur le terrain d'honneur ou sur le terrain du CEP qui, lui, est opérationnel sans problème. Mais se posent les problèmes du secteur médical qui va devoir un peu être à cheval sur les deux sites, sur les vestiaires, sur tous les appareils. Donc ils vont utiliser les appareils de muscu, par exemple, ou de tout ce qui est lié à la préparation physique du centre de formation. Mais il va falloir, c'est que du transitoire. Il se donne 4-5 semaines pour l'instant dans cette configuration entre les deux sites. Mais il faudra peut-être trouver une autre solution si par hasard, enfin si des fois le centre d'entraînement et de perfectionnement qui est le leur, qui est inutilisable aujourd'hui, et devait pas être opérationnel dans plusieurs mois, quoi.
Parfait, on approche de la fin de cette émission, mais avant de se quitter, on va enchaîner, pardon, avec les tops et les flops. On commence avec toi, Didier. Top
ça
flop.
Sera un top adressé à l'ailier du Stade français, Pienassidi Akawaga, qui a marqué un essai extraordinaire dans le sens littéral du terme, hein, avec après une course de 105 mètres avec le ballon, il a récupéré un espèce de coup de pied à suivre d'un joueur du Racing sur sa ligne des 5 mètres. Il est rentré dans sa ligne, dans sa ligne d'en but. Il a fait un sprint de 15 à 20 mètres latéralement le long de sa ligne de but avant de prendre plein nord la direction sa ligne d'essai. Enfin, et a tapé un coup de pied à suivre, le récupérer. Enfin, c'est un essai de funambule, un essai extraordinaire, quoi. Enfin,
auteur d'un doublé.
Et qui avait marqué le premier essai de la rencontre, qui a fait marquer un essai à son ouvreur.
Zachary.
Zachary, voilà, c'est ça. Donc, il a illuminé la journée, ce Fidjien-là.
Christophe, top ou flop?
Un top, et c'est un joueur aussi qui a un petit peu illuminé la pelouse du Michelin hier soir. Pour moi, c'est le trois quarts centre au patronyme bien connu à l'ASM, Paul Coste, qui est notre autre que le petit-fils de Gérard Coste, troisième ligne des années 70 et 80, et fils de Arnaud Coste, qui est troisième ligne des années 90-2000. Donc, ce jeune garçon de 20 ans au centre était épatant. Hier, il a cassé plusieurs plaquages, il y a eu des courses qui ont vraiment mis dans le vent la défense de Clermont. On sent qu'il a, ouais, il a le rugby en lui, ça se sent. C'est lui qui a débloqué d'ailleurs la première situation dangereuse pour Toulouse avec ce petit coup de pied dans le dos de la défense qui a été repris par Rothière pour le premier essai toulousain. Donc, bravo au jeune Coste.
Oui, et qu'on reverra très certainement, qu'on voit déjà un petit moment avec l'équipe première et qui n'a pas fini de briller très certainement sous le maillot toulousain et qu'on pourrait revoir pourquoi pas sous le maillot bleu, puisqu'il a été champion du monde avec les
U20.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci messieurs en tout cas de m'avoir accompagné, c'est la fin de cette émission. Merci à Marius qui était avec nous, qui a suivi ce podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez Greg Gomez. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. Salut.
Salut.
Au revoir.